VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est 18h30 et TU, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 17 mai 2017. John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, horreur au Mali, un homme et une femme ont été tués hier par lapidation dans la région des Kidal. En RDC, des dizaines de détenus, dont le gourou de la secte Bundu Dia Congo, se sont évadés de la prison de Makala. En France, Emmanuel Macron dévoile son premier gouvernement, surtout marqué par la parité homme-femme. Nouvelle controverse ici aux États-Unis après la publication d'extrait d'un mémo de James Comey, ancien directeur du FBI. Et puis nous retrouverons Nicolas Pinot à la fin de ce journal pour les sports et Morgane Guiriec pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Évasion spectaculaire en RDC. Vers 4h du matin, une centaine de prisonniers se sont échappés de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Parmi les évadés figure Nemwanda Nzemi, chef du mouvement insurrectionnel Bundu Dia Congo, qui avait appelé au soulèvement contre le président Kabila. Le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Calme relatif ce mercredi après-midi autour de la prison centrale de Makala, après une matinée particulièrement tendue. La première prison de la RDC, située en pleine capitale, a en effet été attaquée vers 4h du matin, heure de Kinshasa, par des personnes qui ont réussi à libérer quelques prisonniers, notamment le député national Nemwanda Nzemi. Selon Alexis Tambo Mwamba, le ministre de la Justice, joint par Top Congo FM, il s'agissait des adeptes de la secte du leader de Bundu Dia Mayala qui ont réussi à libérer leur leader et avec lui plusieurs autres détenus. Mais à part lui, tous les autres prisonniers emblématiques sont dans leurs cellules respectives, a précisé Tambo Mwamba, allusion faite à tous les hommes politiques détenus à Makala. Un impressionnant dispositif militaire est tout de même très visible devant la prison et la circulation autour de Makala est bloquée. Nous avons le contrôle de tout le site de la prison, souligné il y a quelques minutes le porte-parole de la police, affirmant par la même occasion que les forces de l'ordre avaient réussi à mettre la main sur quelques évadés. Aucun bilan n'a été communiqué jusqu'ici, mais à en croire des nombreux témoignages recueillis sur place, il devrait y avoir des pertes en vies humaines en dehors des dégâts matériels enregistrés. L'enquête ouverte nous en dira davantage. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Dans l'extrême nord du Mali, un couple a été lapidé par des islamistes qui lui reprochaient de vivre en concubinage en violation de la loi musulmane. La lapidation s'est déroulée à Taklit entre les localités de Agelok et Tezalit. C'est une première depuis 2012. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Présent à Agelok depuis le mois de janvier 2017, c'est la suite à un affrontement entre les Gacha et la Sema. Les djihadistes ont pris le contrôle de cette localité en imposant petit à petit la charia ou loi islamique. C'est ainsi qu'ils ont interdit plusieurs activités. C'est dans cette dynamique que le dimanche 14 mai 2017, très tôt le matin, ils ont procédé à la lapidation d'un couple. Selon nos informations, c'est la jeune dame qui est accusée d'avoir eu un enfant hors mariage. Les djihadistes, selon les mêmes sources, ont fait des enquêtes, des interrogatoires. C'est après qu'ils ont décidé de lapider la jeune dame et son mari. Aujourd'hui, malgré la présence des forces internationales comme la MINUSMA et Barkhane dans la région de Kidal, ce sont les djihadistes qui contrôlent les principales routes dans les cercles de Tessalit et environnants. Après cette lapidation, plusieurs habitants d'Agelok ont quitté la zone pour des endroits plus sûrs. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La vie a repris son cours mercredi à Abidjan et dans les principales villes de Côte d'Ivoire avec la fin des mutineries de soldats qui avaient paralysé les activités pendant des jours. Mardi, les militaires révoltés avaient regagné leur caserne après 4 jours de troubles qui ont fait 3 morts et touché plusieurs villes. Les militaires réclament le paiement des primes promises lors des premières mutineries en janvier. Le ministre de la Défense a assuré que le gouvernement n'est pas sorti affaibli de ces mutineries qui vont toutefois peser lourdement sur le budget. La nouvelle flambée de violence en Centrafrique a fait au moins 26 morts à Bangassou, au sud-est du pays, en plus des 6 casques bleus tués la semaine dernière, d'après un premier bilan publié hier par l'ONU. Le président de la Croix-Rouge centrafricaine, Antoine Bao Bogo, a affirmé que ses équipes chargées de récupérer les corps avaient dénombré 115 victimes, des chiffres non confirmés par les autres ONG ou agences de l'ONU présentes en Centrafrique. 2 éleveurs de bétail ont été tués et 7 blessés dans une attaque suicide menée par 3 femmes kamikazes qui se sont fait exploser dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré mardi des témoins. L'épidémie de méningite qui sévit au Niger a tué quelque 180 personnes, dont près de la moitié sont des enfants, sur plus de 3000 malades officiellement recensés depuis janvier, a indiqué l'ONU. Le président ougandais Yoweri Museveni a dénoncé mardi le recours inutile et mauvais à la torture dans une lettre adressée au chef de la police et des services de sécurité auxquels il demande de ne plus y recourir. L'usage de la torture est inutile et mauvais et si, comme certains groupes l'ont prétendu dans les médias, elle a été utilisée alors, elle ne doit plus l'être, écrit Museveni, après des accusations de recours à la torture par les forces de l'ordre qui se sont multipliées ces dernières semaines. Le président soudanais Omar el-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour génocide, se rendra au même sommet des dirigeants arabes et musulmans à Riyad que le président américain Donald Trump a indiqué mercredi. Le chef de la diplomatie soudanaise, je peux confirmer que le président Béchir ira en Arabie Saoudite, a déclaré le ministre des Affaires étrangères soudanais Ibrahim Gandour lors d'une rencontre avec des journalistes à Genève. 3 membres des forces de sécurité somaliennes ont été tués mercredi à Mogadiscio en tentant de désamorcer une bombe placée dans un véhicule. Une 20aine de militants sahraouis accusés d'avoir assassiné 11 membres des forces de l'ordre marocaines en 2010 se sont retirés de leur procès hier soir pour dénoncer une farce, a-t-on appris de sources concordantes. Le procès avait repris fin décembre devant une juridiction civile après un premier jugement devant un tribunal militaire en 2013 au Maroc. 25 sahraouis avaient été condamnés à des peines allant de 20 ans de réclusion à la perpétuité. Une commission parlementaire italienne ayant enquêté sur les ONG affrétant des navires de secours au large de la Libye a recommandé mardi que des policiers soient présents au moment de leurs opérations de sauvetage de migrants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vladimir Poutine a dit qu'il est prêt à fournir l'enregistrement du récent entretien à Washington entre Sergueï Lavrov et le président américain Donald Trump. Un conseiller du Kremlin a par la suite précisé que le président russe parlait d'une retranscription écrite des propos tenus à cette rencontre. Le point avec Solange Niamoulissa.
Lors d'une conférence de presse avec le premier ministre italien Paolo Gentiloni, M. Poutine a déclaré que si l'administration américaine l'autorise, il est prêt à fournir l'enregistrement de la conversation entre Lavrov et Trump au Congrès et au Sénat américain. Cette déclaration fait suite au scandale provoqué par des révélations de la presse américaine, selon laquelle M. Trump a livré des informations confidentielles au ministre russe des Affaires étrangères. Le conseiller du Kremlin Yuri Utchakov précise qu'il ne s'agit pas d'un enregistrement audio, mais d'une retranscription de ce qui a été dit pendant la rencontre. Vladimir Poutine a même plaisanté, promettant une réprimande à son ministre qui n'avait pas partagé ses informations ultra-secrètes avec lui, ni avec les services de renseignement russes. Bien sûr, la boutade a fait rire M. Lavrov.
Les révélations sur les informations sensibles que Donald Trump aurait communiquées à des responsables russes jettent une nouvelle ombre sur la prochaine visite du président américain en Israël, d'où proviendraient les renseignements au cœur de l'affaire. Les responsables israéliens ont adopté un profil bas devant ces informations. Donald Trump est attendu en Israël lundi. La coalition anti-djihadiste conduite par les États-Unis a démenti mercredi avoir mené 2 jours auparavant des raids aériens meurtriers sur la ville syrienne de Boukamal, frontalière de l'Irak, après des informations faisant état de frappes ayant tué des dizaines de civils lundi. La coalition a néanmoins dit vérifier des informations faisant état des victimes dans un raid mené dans la province de Raqqa. À Genève, l'opposition syrienne s'est engagée à ne pas quitter les pourparlers de paix qui ont débuté mardi, malgré les défaites des rebelles à Damas et les accusations américaines d'atrocités contre le régime syrien. En France, c'est officiel, le gouvernement du président Emmanuel Macron est désormais connu et il comporte quelques surprises. Anastasie Tudiech.
C'était une promesse de campagne. Le gouvernement de M. Macron respecte une stricte parité homme-femme et un panachage politique, intégrant des personnalités de gauche, de droite, du centre et de la société. La bataille des législatives, prévue les 11 et 18 juin, a pesé dans ses nominations. Le ministre socialiste sortant de la Défense, Jean-Yves Le Drian, bien connu sur le continent, devient ministre des Affaires étrangères. Les centristes François Bayrou et Marielle de Sarnez sont respectivement nommés à la justice et aux affaires européennes. Quelques arrivées surprises, l'eurodéputée centriste Sylvie Goulard devient ministre des Armées, la Guadeloupéenne Laura Flessel, ancienne championne d'escrime, est nommée ministre des Sports, et l'ancien animateur de télévision et militant écologiste Nicolas Hulot est nommé à la transition écologique. Le premier conseil des ministres est prévu demain jeudi matin.
Le ministre de la Défense britannique a annoncé mercredi qu'il soutenait le projet d'un QG militaire européen tout en maintenant son opposition à une telle appellation, ce qui avait jusqu'ici bloqué sa concrétisation. Ce centre de commandement est un projet phare de l'Union européenne. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Les investisseurs internationaux accueillent avec enthousiasme l'eurobond d'$1 milliard émis hier par le Sénégal. Les souscriptions ont rapidement atteint $4 milliards bien avant l'ouverture des marchés financiers nord-américains. Elles se sont achevées sur 7,7 milliards à la fin de la journée. Mais à l'arrivée, l'État du Sénégal a retenu $1,1 milliard. Selon certains analystes, le succès de l'opération démontre une bonne réputation du Sénégal auprès des investisseurs. Le conseil d'administration de la Banque mondiale va financer un projet d'extension du système d'interconnexion électrique entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Le montant de l'enveloppe, 91,5 millions d'euros. Les trois États membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal veulent redynamiser leur système d'échange d'électricité à travers le projet d'extension de leur réseau de transport. Enfin, la Banque centrale zambienne a baissé ses taux d'intérêt pour la deuxième fois en 5 ans. Le taux passe de 14 à 12,5%. La raison invoquée pour cette baisse du taux d'intérêt, une bonne saison des pluies avec comme conséquence dans les mois à venir la baisse des prix des denrées alimentaires.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour nous parler des sports. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Cannes des moins de 17 ans au Gabon, deuxième journée.
Les Panthères gabonaises vont-elles se remettre de la claque infligée par la Guinée lors du premier match du groupe A ? Réponse tout à l'heure à Port-Gentil face au Ghana. Les jeunes Ghanéens qui pourraient prendre une option sur la qualification si dans le même temps la Guinée bat le Cameroun. Les Camerounais en avaient pris 4 lors du premier match, ils ont redressé la barre. Score final, 1-0 face à la Guinée, un score de parité.
À suivre ce mercredi la finale de la Coupe d'Italie.
La Juventus Turin, proche d'un nouveau titre de championne d'Italie, est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions, qui peut s'offrir son premier trophée de la saison ce soir face à la Lazio de Rome en Coupe d'Italie. Ce duel au stade olympique prend des allures de revanche pour les Romains. En finale, il y a 2 ans, ils avaient été battus par les Turinois à l'issue des prolongations. La Juve, double tenante du titre, tandis que la Lazio va disputer sa 3e finale en 5 ans, dont un sacre face à la Roma en 2013.
Tennis Master de Rome, la numéro 1 mondiale éliminée d'entrée de jeu.
Et oui, l'Allemande Angélique Kerber a été éliminée ce mercredi dès son entrée en lice au 2e tour du tournoi de Rome par l'Estonienne Anett Kontaveit, 68e joueuse mondiale qui s'est imposée en 6-4, 6-0. Kerber, qui menait 4-2 dans la première manche, a ensuite cédé 10 jeux d'affilée. Elle a finalement été balayée en à peine 55 minutes de jeu. Victorieuse de 2 tournois du Grand Chelem l'année dernière, Angélique Kerber vit une saison difficile avec une seule finale disputée et perdue. C'était à Monterrey.
Et puis, NBA, championnat de basket nord-américain, seconde manche de la finale de la conférence.
Les Warriors de Golden State ont sorti l'artillerie lourde à domicile pour pulvériser San Antonio 136 à 100. Ils se détachent désormais 2-0 dans cette finale de la conférence ouest de la NBA. La charge californienne a été menée par la fine gâchette Stephen Curry qui fait un carton 29 points dont 6 paniers à 3 points. Face à il est vrai des Spurs privés sur blessure blessures de deux joueurs clés, Kenny Leonard et Tony Parker. Au terme des deux premières rencontres jouées à domicile dans cette série, au meilleur des sept matchs, et avant de se rendre au Texas pour les deux suivantes, les Warriors ont donc bien avancé vers une troisième finale de NBA consécutive.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour et on commence par le Congo-Brazzaville où le premier tour des législatives a été fixé pour le 16 juillet prochain et le deuxième tour aura lieu le 30 juillet. Au total, 151 sièges sont à pourvoir, soit 12 de plus que dans la chambre sortante. Pour la première fois, ces scrutins seront couplés aux élections locales et municipales. Pour réaction, Eric Manirakiza a joint à Brazzaville le vice-président du Rassemblement pour la démocratie et le développement RDDD, Jean-Jacques Yumbi Opango.
Je crois qu'aujourd'hui, les Congolais sont un peu blasés des élections et il n'y en a pas beaucoup qui se rendent pour l'enrôlement, justement. Je crois en Dieu, j'espère que les choses évolueront et se passeront bien. Mais vous savez, avec tout ce qui s'est passé pendant les élections dernières, les Congolais sont tout à fait sceptiques. C'est pour cela qu'ils ne se ruent pas dans les coins d'enrôlement. L'engouement n'est pas encore là, en tout cas.
Est-ce que vous mobilisez au moins vos militants pour se faire enrôler?
Oui, nous participons à cette élection. Effectivement, nous mobilisons nos militants pour se faire enrôler parce que nous avons toujours dit que le vote est un devoir civique et que tout Congolais a le devoir de voter. Celui qui veut voter positivement vote positivement, celui qui veut voter négativement vote négativement, mais nous ne sommes pas pour l'abstention. Et malheureusement, là, je crois que si nous le faisons, ne prenons garde, il risque d'avoir un taux élevé d'abstention.
Les législatives vont être couplées aux élections locales et municipales. Est-ce que c'est quelque chose qui va être facile pour les électeurs, notamment dans le choix du vote?
Ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, ce sera déjà un coût moins élevé pour l'État, mais ce n'est pas une mauvaise chose qu'on fasse tout en même temps. Il faut justement que chaque organisme politique puisse expliquer aux militants comment voter, de bien réfléchir au logo et au visage des différents candidats. Je pense qu'on va garder le bulletin unique. C'est déjà ça au moins la garantie qui va éviter un certain nombre de fraudes.
Est-ce qu'au niveau de l'organisation elle-même, toutes les conditions sont-elles réunies pour garantir un scrutin transparent sur tout le territoire national?
En ce qui nous concerne, nous disons non, dans ce sens que nous n'avons pas été associés pour justement participer à l'organisation. Donc il y a certains partis politiques qui ont été lésés, tout est géré par le pouvoir, il faut dire les choses comme elles sont, et il y a certains partis qui ne sont même pas dans les bureaux de vote, donc il y a des choix spécifiques qui ont été faits, et ça, n'inspire pas confiance.
Et qu'est-ce qu'il faut pour vous pour que vous soyez rassuré?
Si on avait pris les choses un peu plus tôt et qu'on aurait associé toute la classe politique, peut-être qu'on aurait pu voir une certaine... On aurait pu ne pas s'inquiéter. Mais bon, nous craignons aussi que dans certaines parties du pays, les élections n'aient pas lieu. Avec ce qui se passe notamment dans la région du Poule, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer là-bas. Le gouvernement a le devoir d'évaluer la situation dans le Poule et de décider. Mais je crains que là-bas, ce soit un peu compliqué.
Jean-Jacques Yumbi Opango à Brazzaville.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
17 mai 2017, cela fait 20 ans que Mobutu a été chassé du pouvoir par l'avènement de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila. 20 ans après, que restait-il du régime Mobutu et qu'est-ce que le régime de Kabila a changé? Reportage de Gino Reema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le 17 mai est une date qui a marqué la chute du régime Mobutu, un régime qui avait son bon et mauvais côté, comme l'explique quelques Kinois.
Mobutu a maintenu l'unité de notre pays. On vivait quand même dans l'unité, dans l'union. Moi, je pouvais voyager partout au Zaïre, c'était bien. Mais aujourd'hui, il n'y a plus moyen de voyager parce qu'à l'Est, partout, par-ci, par-là, il y a des guerres. Et aussi, il y avait aussi la dignité. Tous les pays qui nous entourent aujourd'hui nous chassent comme des chiens. À l'époque de Mobutu, ce n'était pas comme ça. Nous étions respectés.
Le président Mobutu, il n'avait pas que de bien en fait. Tout d'abord, sa façon de mener la politique n'était pas correcte pour nous, les Congolais. Et puis, voyons qu'à l'époque, on a consommé un billet de 1 million de Zaïre.
Et à la question de savoir si 20 ans après, peut-on attribuer à Mobutu la responsabilité des conditions précaires des vies de la population congolaise, un professeur d'université, Émile Mota, a indiqué que le contexte diffère entre le régime Mobutu et l'actuel régime.
Mobutu a régné pendant un temps bien déterminé, sous un contexte différent de celui que nous avons hérité avec l'AFDL. Nous étions dans le bloc Est-Ouest, le conflit Nord-Sud. Lui a fait son temps et les réalités de cette époque étaient valables en son temps. Le régime AFDL arrive dans un contexte où nous ne sommes plus dans la guerre froide et où nous devons maintenant relancer l'économie du Congo parce que nous étions presque sous tutelle. Et l'AFDL a fait ce qu'elle a fait jusqu'aujourd'hui. Il y a une évolution. Quand nous faisons l'étude statistique de nos performances, le trend, comme on dit à l'économie, il est positif, il est croissant.
À l'entrée de l'AFDL, il y avait des réticences dans le chef de certains Congolais. Cependant, il y a lieu de reconnaître qu'aujourd'hui, la RDC dispose des institutions solides et stables, a dit le député national Didas Pembe.
Le changement de régime est là, avec beaucoup de tumultes. On a connu des guerres successives d'invasion de la RDC. Et Dieu merci, il y a eu le président Kabila qui est arrivé à pacifier, à réunifier la RDC. Aujourd'hui, nous avons un pays entier où nous avons connu deux élections et nous allons vers une. Et bon, est-ce que c'est un changement total? Je dis, voyons voir. Il y a un changement, c'est vrai. L'État qui était pratiquement devenu inexistant à la fin du règne de Mobutu, qu'on le veuille ou non, Joseph Kabila, lorsqu'il a repris le pouvoir, il a remis l'État sur le rail et on peut penser qu'aujourd'hui, les institutions de l'État sont là de la manière la plus solide et la manière la plus stable.
Ce 17 mai, les Congolais se souviennent de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa.
Depuis Kinshasa, Gino Rema de Top Congo FM pour VOA Afrique. VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
En Côte d'Ivoire, en préparation depuis les états généraux de la presse en 2012 et validé en Conseil des ministres la même année, le projet de loi portant régime juridique de la presse a été adopté par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le texte doit désormais être discuté en plénière fin mai. Le point avec Narita Namasté, notre correspondante à Abidjan.
La presse ivoirienne est à couteau tiré avec le gouvernement ivoirien. La cause de cet éventuel bras de fer, la réforme juridique de la presse dont l'avant-projet de loi présenté par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la poste devant la Commission des affaires sociales et culturelles qui l'a adopté vendredi 5 mai dernier. Pour le député de Danane Kweya Octave, membre de cette commission, il y a des avancées notables.
En fait, ce n'est pas une loi sur les journalistes, mais c'est une loi sur la presse. Et personnellement, je pense qu'on a noté des évolutions dans cette loi. C'est une loi qui apporte un certain nombre de précisions par rapport à celle de 2004. Et non seulement il y a des précisions, mais il y a la dépénalisation des délits de presse. Je pense que ça, c'est une évolution assez importante à noter.
Le projet de loi suivant son cours doit être présenté en plénière. Rejeté par les principales organisations des journalistes, les hommes des médias ont le soutien de certains députés. Alain Le Bouillon, député de Fresco, trouve que ce projet de loi est un recul en matière de liberté de la presse.
Ce que nous disons, le journaliste n'a pas sa place en prison. Ce que nous disons, les journalistes ne peuvent pas porter le chapeau à la place des hommes politiques. Les hommes politiques sont les premiers à mettre de l'huile sur le feu. Il faut que le code pénal s'applique à eux. Ne faisons pas porter le chapeau aux journalistes qui sont tous ici, le bouc émissaire tout trouvé.
Tout comme lui, c'est un journaliste, pas de recul en matière de liberté de presse, mais aussi de démocratie.
Que aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que cette loi ne passe pas. Et que cet article 90, qui remet en place encore la pénalisation du travail des journalistes, soit retiré.
Le journaliste écrivain blogueur André Sylvain Conan, avec le verbe qu'on lui connaît, ne mâche pas ces mots.
Cette loi, je vous le dis très clairement, ne pourra pas s'appliquer en Côte d'Ivoire. Pour une raison toute simple, nous sommes au 21e siècle. Aucun dirigeant africain, encore moins ceux de la Côte d'Ivoire, ne peut maintenir en prison un journaliste. Et donc que cette loi soit votée ou non,
qu'est-ce que le pouvoir va gagner? Tout simplement de reculer dans le classement mondial de la liberté de la presse. Déjà que le classement n'est pas bon, ça va décourager certains investisseurs puisque ce sont les indicateurs que les investisseurs regardent avant de venir dans un pays. C'est ça que les gens veulent.
Les consommateurs de presse par la voix de Mme Zagadou Mireille qui disent suivre le débat souhaitent que le droit du consommateur à l'information ne soit pas visé par cette loi.
Que le consommateur final ait droit à l'information vraie, à l'information juste. Mais si elle doit être biaisée pour des raisons d'emprisonnement ou de pression quelconque, on est en train d'empêcher le consommateur de rentrer dans un de ses droits.
Un projet de loi déjà sur la table des députés et doit passer en plénière le 27 mai prochain. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Nouvelle controverse ici aux États-Unis avec la publication d'extrait d'un mémo de James Comey, directeur récemment limogé du FBI, la police fédérale, affirmant que le président Trump lui a demandé d'abandonner l'enquête sur l'ancien secrétaire à la sécurité nationale Michael Flint. Certains parlent d'abus de pouvoir et d'autres d'obstruction à la justice. Timothée Donambaï a recueilli l'analyse de Simon Serfati du Centre d'études stratégiques internationales de Washington.
Il est trop tôt pour en parler de la sorte, parce que les faits ne sont pas encore connus dans leur complexité. Nous n'avons pas eu accès, de toute évidence, aux mémorandums rédigés par l'ancien directeur de la FBI. Et puis, et surtout, il y a la possibilité que des enregistrements auraient été faits à la Maison-Blanche en fonction de ce que le président lui-même a indiqué, bien qu'il ait employé des guillemets lorsqu'il a fait référence à l'existence de tels enregistrements. Et ceux-ci ont été exigés dorénavant par un certain nombre de membres du Congrès et par les deux comités qui sont le plus en avant dans les enquêtes liées à ces questions. Alors il faudra au préalable voir non seulement ce qui existe, ces mémorandas que nous n'avons pas vus, ces enregistrements que nous n'avons pas entendus, mais encore dans quelle mesure ils justifient des appréhensions croissantes quant aux démarches permanentes du président Trump.
Les républicains contrôlent les deux chambres du Congrès ainsi que la Maison-Blanche. Quelle est leur position du point de vue politique aujourd'hui?
Leur position commence à évoluer au Sénat, mais aussi et de façon plus troublante pour M. Trump à la Chambre des députés. Il n'est pas du tout acquis qu'il y ait aujourd'hui une majorité de 52 sénateurs républicains en faveur du président Trump. Tout dépend de ce qui sera confirmé dans les jours, les semaines à venir. De même à la Chambre, la majorité républicaine en faveur de leur président s'effrite, et franchement, assez rapidement.
Quelle est l'attitude de la minorité démocrate dans tout cela?
Elle essaie dorénavant d'être moins partisane. De façon assez surprenante, parce qu'il y a eu une telle accumulation de dossiers qu'au fond, les démocrates commencent à se dire eh bien, il n'est pas besoin de jouer une carte partisane excessive, il vaut mieux jouer une carte patriotique. Alors, de plus en plus, les démocrates disent « Ah, mais c'est une crise nationale, c'est une crise de société, c'est une crise constitutionnelle. » Et ils espèrent, sur cette base, profiter de la situation, non seulement en sauvant le pays, mais en sauvant le parti également.
Simon Serfati, du Centre d'études stratégiques internationales de Washington.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte la récente vague de mutineries en Côte d'Ivoire. Des tirs à Boaké, Abidjan et Korogo. Après des négociations difficiles, un accord a été trouvé entre état-major et mutins. Le bras de fer reste intense entre ces militaires et le gouvernement. Qui sont les mutins? Que veulent-ils? Où en est la réforme de l'armée? L'État ivoirien a-t-il réglé définitivement cette crise? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h avec Tatiana Mosso et ses invités.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Sims Lumami. Wagner Roberts était à la console.